L'Epsilon, page 62 à 65. Ce texte m'entraîne. Dès les premiers mots, j'acceptais qu'il divague. Je pressentais qu'il risquerait sa vie entre la forme un peu convenue et désuète d'une narration au fil du temps et les coqs à l'âne, les trous d'âme, les glissades abruptes. Je voulais bien laisser le monstre grandir. J'étais curieuse. J'acceptais d'avance les naissances imprévues, mais je ne pouvais imaginer le bombardement du cancer. Je fais face à un personnage que je n'avais pas convié. Je le remets à sa place. C'est juste un petit personnage annexe. Sa voix est secondaire. Il me regarde dans les yeux et prend la parole. J'ai rusé. Je lui ai offert un épais carnet noir rien que pour lui. J'ai voulu le contenir ailleurs. Il en a pris possession avec satisfaction, mais il n'a pas quitté ici la place pour autant. Il s'est ancré dans l'Epsilon. Je ne peux le désincruster du texte. Je dois faire avec. Mais il est hors de question qu'il prenne l'autorité sur mon écriture. Et pas davantage dans sa vie. Elle vit, mais elle est lente, encore incrédule. Elle travaille un peu, elle regarde, elle glane. Après dîner, assez tôt en cette longue journée de juin, elle adresse un dernier regard, encore empreint des instants chaleureux tout proches, à une amie qui prend congé. Elle referme la porte. Quelque chose s'efface. Inéluctablement, elle entre dans un autre instant, presque une autre vie. Même si, s'asseyant devant la table basse, elle contemple le bouquet de pivoine rose qu'elle lui avait offert, la trace de l'ami déjà pâlie, et devant les fleurs, elle rêve, solitaire. Les pivoines sont odorantes et charnues. L'une d'entre elles, totalement ouverte, vit somptueusement ces dernières heures. Elle penche, s'alourdit, et ouvre encore davantage le creux profond de sa corolle poudrée d'une brume jaune safran. Elle exhibe pistil et étamine, lignes fines et racées, comme tracées à l'encre de Chine. Les autres renâclent à s'ouvrir, grosses boules encloses sur elles-mêmes. Elle laisse entrevoir, bordée par la limite inférieure des pétales, l'orée troublante d'un cœur qui se dérobe au regard, et dont la texture et le parfum l'attirent au point qu'elle se penche et goûte la chair suave et odorante de la fleur. Au contact de la pointe de sa langue et de la muqueuse interne de ses lèvres, la couleur rose s'enrichit doucement d'une petite trace humide, plus sombre et plus rouge, tandis que s'érotise sa bouche et que sa peau très légèrement frissonne. C'est l'été déjà, un été très pluvieux. La Seine déborde et recouvre les berges. Le rituel, la promenade du mardi, déjà délaissée, est devenue impossible. Le diable est dans l'eau, presque jusqu'à la taille. Quelques cabanes, quelques structures des aménagements ludiques, démontées, gisent en haut sur le trottoir partiellement bâché. Dans Paris, ça flûte partout. Les caniveaux ruissellent, l'eau gicle sous les roues des voitures et éclaboussent les piétons. Sur les trottoirs, ça clapote et ça fait des ronds dans l'eau. Grappes humaines trempées dans les nouveaux abribus totalement défaillants. C'est un été où tout coule, une histoire d'eau qui n'en finit pas. On circule mal aussi, grèves et blocages, quotidiens et projets sont maltraités, tout est impensable et caricatural. Elle entre dans un cycle de colère contre elle-même et contre la société. Pour une fois, elle est synchrone. Tout justifie qu'elle hurle et c'est ce qu'elle fait, un temps. Puis la violence s'éloigne ou se cache. Comme l'eau, elle reflue.